Je vais donc reprendre mon exposé sur la doctrine sociale de l'Église. Aujourd'hui, je voudrais parler de la société. Aristote l'avait déjà constaté, et même avant lui. L'homme est un animal social. C'est-à-dire que, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, il a toujours vécu dans des groupes. Le mythe du bon sauvage, qui prétend avoir lié des relations avec d'autres hommes, des relations quasiment contractuelles, est le fruit d'une imagination malade. Quant aux ermites, ils ont toujours existé, mais non, ils n'ont existé que dans des sociétés déjà très organisées et restent des cas particuliers. Toutefois, une simple réunion d'hommes ne suffit pas à faire une société. Prenons l'exemple d'un moyen de transport, avion, car ou bateau, n'importe. L'ensemble des passagers n'est pas une société. Ils parlent ensemble ou chacun est dans son livre et dort, n'importe quoi, ce n'est pas une société. Que survienne un accident, si par exemple si le bateau s'échoue sur une île déserte, normalement les passagers vont s'organiser selon leurs compétences. Les uns pour soigner les blessés, les autres pour demander des secours, d'autres pour tenter de réparer le moyen de transport, d'autres pour organiser le ravitaillement, etc. Ce qui prouve bien que toute société s'organise autour d'un bien commun, ou plus exactement, de plusieurs biens communs, plus ou moins hiérarchisés. Dans une entreprise, il y a, outre la finalité de l'entreprise, la recherche d'un profit financier, la recherche de l'épanouissement personnel de chacun de ses employés. Il existe néanmoins une hiérarchie à respecter. Le fondateur de l'entreprise Michelin l'avait parfaitement défini. Notre but est de produire le meilleur pneu au meilleur prix. On ne répétera jamais assez que, contrairement à ce qui est ressassé dans la presse économique et même dans la presse tout court, le but premier d'une entreprise n'est pas de gagner de l'argent. Gagner de l'argent est pour elle une nécessité. Si elle n'en gagne pas, elle meurt. Il en est du profit pour une entreprise, comme du boire et du manger pour chacun d'entre nous. Faute de boire et de manger, l'homme meurt. Mais le but de sa vie n'est pas la bonne chair. L'Église répète que, à l'image de Dieu, l'homme est bien plus qu'un simple que créé à l'image de Dieu, l'homme est bien plus qu'un simple tube digestif muni d'un organe sexuel. Si le profit était l'unique but d'une entreprise, les meilleurs seraient les contrefacteurs, les faussaires, les trafiquants de toutes sortes. Il faut répéter que le but d'une entreprise est de rendre un service. Elle a donc, qu'on le veuille ou non, une dimension morale, que les libéraux intransigeants le reconnaissent ou non. Et cette dimension morale intéresse non seulement les fournisseurs et les clients, mais aussi les employés qui y participent. Mais comme toute association humaine, elle est composée d'hommes libres et responsables. Cette liberté et cette responsabilité sont certes limitées par les circonstances, l'éducation, les coutumes. Aucun d'entre nous n'est absolument libre. Mais il subsiste toujours un domaine qui ne saurait appartenir à l'État, que l'État s'appelle César ou Créon. Chacun de nous doit décider, qu'à part que l'État s'appelle César ou Créon, et que cet État ait l'idée de décider ce que chacun de ses membres doit accomplir, comme il le ferait pour des animaux domestiques. Cette erreur est la plus tyrannique de tous les socialismes et l'aspect le plus tyrannique de tous les socialismes, de tous les totalitarismes. C'est la même chose d'ailleurs. De décider pour chacun de nous ce qui est bien et mal. Dans sa pièce sur Antigone, Anouilh a bien montré que cela peut aller jusqu'à la caricature, Créon ayant décidé que le bon et le mauvais des frères d'Antigone étaient celui-là sous un simple coup de dé. Le libéralisme reconnaît cette liberté fondamentale de l'homme, et il a raison, mais il oublie d'ajouter que dans une société normale, cette liberté doit être mise au service d'un bien commun. Les socialistes reconnaissent avec raison que chacun doit se mettre au service de ce bien commun. Mais ils oublient d'ajouter que la puissance dirigeante, en premier lieu l'État, doit respecter la dimension de liberté de l'homme et que la défense de la morale n'est pas dans ses attributions. Ce n'est pas à César de décider de la dignité de la vie des hommes ni des modalités de l'union conjugale. C'est ainsi que l'on peut, voire que l'on doit, dire que libéralisme et socialisme sont en réalité les deux faces opposées de la même pièce de fausse monnaie. Celle qui évacue de la nature de l'homme son côté créé à l'image de Dieu. On aboutit dans chacun des cas à la tyrannie d'une oligarchie qui n'a aucun frein à son règne, avec la puissance d'une nomenclature apolicière ou bien dans le but unique de servir sa majesté financière. Il est frappant de constater que lorsque le Christ a déclaré que nul ne pouvait servir de maître, il n'a pas dit Dieu et le diable, mais Dieu et l'argent, comme si l'argent était une espèce d'hypostase de Satan. Ces deux oligarchies, le socialiste et la libérale, font d'ailleurs excellent ménage, comme je l'ai personnellement constaté dans mon activité professionnelle. Les socialistes sont les premiers à édicter des lois imbéciles et contraignantes qui permettent aux libéraux de gagner de substantielles parts de marché. On peut citer l'interdiction des canalisations en plomb, même dans le cas du calcaire, auquel cas ça n'a aucune importance, au profit des tuyaux en plastique, ou l'interdiction des sacs en plastique, qui brûlent très bien sans laisser de cendre, au profit des sacs en papier, etc. L'alliance entre les deux options est parfaite. Il n'est que de voir la facilité avec laquelle les hommes de la nomenclature soviétique se sont mués en capitalistes, experts en bourse et en trafic immobilier. Pourrait-on citer un exemple de société souhaitable, ne fût-ce qu'à une échelle très réduite ? On peut penser à l'orchestre, où chaque exécutant a longuement appris à jouer de son instrument, parfois dans la douleur, et où chacun a bien sa place, du violon au tuba et du piccolo au timbal. Tous sont sous l'autorité d'un chef qui lui-même se doit de respecter l'idée du compositeur. Le meilleur exemple d'une société idéale, dont on peut s'inspirer bien sûr sans la suivre mot à mot, ce serait celle des communautés monastiques. Le but est clair, la sanctification de chacun, moyennant quoi les rôles sont aussi différents que complémentaires. Le père abbé dirige le navire, le célérier veille aux travaux, le comptable à la caisse. Ils ne sont pas exposés à la chaleur du fourneau comme le frère cuisinier, ni aux rayons du soleil comme le frère jardinier. En revanche, ils ont peut-être des angoisses nocturnes inconnues des autres. Quant au frère de la bibliothèque, il a la tête pleine de ses études. Ce qui lui est demandé s'exerce d'une manière bien différente. Mais tous concourent au bien commun. Et l'idée même que l'aide de la lutte des classes serait complètement étrangère. Il n'est que de les voir chanter les complis. À bientôt.